France Info. France Info.
Oui, 25e anniversaire du télescope spatial Hubble, mais le premier anniversaire nous ramène en 1955, il y a 60 ans tout juste, la mort de l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, Albert Einstein. Aujourd'hui encore, la figure de ce savant intrigue et fascine, on a même décortiqué son cerveau pour chercher à comprendre d'où venait son génie scientifique. Au micro France Info d'Estelle Faure, des CM2 de l'école Romainville de Paris, et pour leur répondre, Michel Puech, professeur de philosophie à la Sorbonne et co-auteur du livre Einstein, un livre pour les enfants, publié chez Milan Éditions.
Est-ce qu'il est venu d'une famille riche ?
C'est vrai que son papa a une petite entreprise, donc ça va bien à la maison, il fait du violon, il a une enfance bourgeoise, etc. Mais après ça se dégrade, l'entreprise marche pas bien, ses parents partent à l'étranger, il se retrouve en pension, et ensuite surtout il sera pauvre. Après ses études, il a pas de travail et il est pauvre.
Chloé.
C'était un bon élève ?
Alors, bonne nouvelle, non, c'était pas un particulièrement un bon élève. Il était génial en maths, ça c'est vrai, mais il n'arrivait pas à s'intéresser à l'école, aux choses auxquelles on l'obligeait à s'intéresser. Et ensuite, quand il sera devenu quelqu'un de célèbre, il dira « Souvent, l'école tue la curiosité des enfants. Il faudrait trouver comment faire pour la développer. »
Est-ce que c'était quelqu'un qui était amusant ?
Oui, il a toujours eu cette personnalité gay. Alors déjà, à l'école, non, parce que l'école allemande, à la fin du 19e siècle, ça rigole pas du tout. Mais sa personnalité, il l'a révélée plus tard, et surtout quand il a émigré aux États-Unis, à la fin de 1932, là, il a découvert un monde où l'humour est important, beaucoup plus décontracté, et il s'est aperçu qu'en tirant la langue et en portant des sweatshirts, ça marchait bien pour lui dans la presse, il était populaire.
Pourquoi on parle encore d'Einstein en 2015 ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il est une superstar de la science et en fait de l'intelligence ? Bon, à cause de ses travaux, ça, c'est sûr, de ses résultats scientifiques. Aussi parce qu'il a une bonne tête, hein. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qu'on voit autant que lui en poster. C'est quand même lié à sa bonne tête. Mais aussi à cause des médias, quand même, hein. Il faut penser aux médias américains. C'est comme Marilyn Monroe. Lui, il est le Marilyn Monroe de la science. Mais en fait, c'est pas tellement vrai, ça. Parce qu'il a été célèbre avant, dès les années 1920, en Allemagne. Il était déjà une star que les gens connaissaient.
Combien de prix Nobel il a eu ?
Un seul prix Nobel. Il n'est pas dans le livre Guinness des Nobel, mais en fait, il y a très peu de gens qui en ont eu juste deux, pas plus, je crois. Il a eu en 1921, et même pas pour la relativité, pour des travaux sur un autre sujet où il a été génial.
Alors, son visage, son nom, son équation, mais au-delà, Aylan.
C'est quoi sa plus grande expérience ?
Eh bien, là encore, les scientifiques ne font pas tous et que des expériences. Il n'a pas fait particulièrement d'expériences, Einstein. Il fait des interprétations. Et ces trois articles fondamentaux, en 1905, tous les trois, c'est les interprétations de phénomènes qui avaient déjà été expérimentés et observés. Et je rajoute, heureusement, parce qu'il n'avait pas de crédit, il n'avait pas de moyens. Et s'il avait eu besoin de matériel expérimental, ben, il n'aurait pas pu faire.
Michel Puech, question de Tania.
Est-ce que ça a aidé à faire des choses extraordinaires aux gens ?
Oui, bien sûr. Peut-être pas le voyage dans le temps. En général, la relativité, on croit que c'est le voyage dans le temps. Mais des choses un peu plus fines, par exemple avec les GPS. Quand on calcule sa position par rapport à un satellite, on utilise un calcul où il y a de la relativité.
Chloé.
Est-ce que ces expériences, ça fait des choses mauvaises comme la guerre ou ça fait relativement des choses correctes ?
Ah, ça c'est un gros problème. C'est vrai que, évidemment, la science, ça fait, comme tu dis, des choses relativement correctes et même parfois des choses bien. Mais c'est vrai aussi que ça fait des choses horribles. Et pour Einstein, on peut penser à la bombe atomique, à laquelle il n'a pas travaillé directement d'ailleurs, hein, mais des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le problème. On ne peut pas séparer. Dans la puissance de la science, ce qui va donner des bonnes choses et ce qui va donner des choses dangereuses. Et parfois les deux à la fois, peut-être l'industrie nucléaire, ça pose des problèmes, mais on ne sait pas dans quel sens ça bascule.
Et puis on ne peut pas le rendre responsable de l'utilisation qui a été faite de ses travaux.
Surtout lui, d'autant plus qu'il a été un militant pacifiste toute sa vie, sauf contre l'Allemagne nazie, où là il disait « il faut faire la guerre ».
Tania.
Est-ce qu'il travaille avec d'autres stars qui font des expériences ?
Les scientifiques normalement travaillent en équipe. Pour qu'un résultat soit validé, il faut qu'il y ait une équipe et que la communauté l'accepte. Mais Einstein est plutôt un solitaire. Il rencontre d'autres savants, il rencontre aussi beaucoup de gens ordinaires, mais il n'a jamais travaillé à l'intérieur d'une équipe, comme font aujourd'hui la majorité des scientifiques.
Combien mesurait son cerveau ? Est-ce qu'il était plus grand que les autres ?
On a beaucoup fantasmé sur le cerveau d'Einstein et sur les gènes d'Einstein aussi. Et en fait, à sa mort, on l'a prélevé, son cerveau, et on l'a pesé. Et la surprise, il était plus léger, moins volumineux que la moyenne des cerveaux masculins. Il y a encore des travaux là-dessus.
Quittons le génie scientifique d'Albert Einstein pour une pure création scientifique toujours, le télescope géant Hubble, un télescope spatial en orbite à 612 km de la Terre, 25 ans qu'il garde un œil sur l'espace et qu'il nous envoie les plus beaux clichés de l'immensité spatiale. Au micro France Info d'Estelle Faure, des 6e du collège Fabien de Saint-Denis, et pour leur répondre, Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace à Toulouse.
Il sert à quoi le télescope ?
Eh bien, Sadio, le télescope spatial Hubble fait de l'astronomie comme d'autres télescopes, mais au sens large. Hein, il s'occupe à la fois des planètes de notre système solaire, des étoiles, comment elles se forment, comment elles meurent, et des galaxies, même très lointaines, donc des débuts de l'univers.
À quoi il ressemble ? Est-ce qu'il est rond, carré, rectangle, ovale ?
Alors, imagine un tube de 13 mètres de long et de 4,20 mètres de diamètre environ, et de chaque côté, deux grands panneaux solaires. Voilà, c'est ce à quoi ressemble Hubble. Il est quand même assez massif, hein. Tiens-toi bien, au décollage, il pesait 11 tonnes.
Question d'Emeline.
Est-ce qu'il est comme tous les télescopes qui permettent de regarder le ciel ?
Alors Emeline, je te dirais à la fois oui et à la fois non. Oui, en ce sens que comme les télescopes, ils regardent le ciel, et à la fois non parce qu'il a une particularité que n'ont pas les télescopes au sol, il est au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et c'est ça son bonus. Parce que l'atmosphère terrestre, il y a de la turbulence et ça trouble les images. Mais là, vu qu'il est à 500 km au-dessus de la Terre, eh bien il n'est pas gêné par l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'avec un miroir de 2,40 m, il fait des images mieux résolues que des télescopes de 8 à 10 mètres au sol.
Khadija.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans le télescope pour le diriger de l'intérieur ?
Alors pour le diriger, non, parce qu'il n'y a personne dans Hubble quand il fonctionne. En fait, il est télécommandé depuis le sol, et très exactement aux États-Unis. En revanche, des astronautes sont déjà allés vers Hubble pour le réparer. Donc on envoie une navette et on attrape Hubble avec le bras robotique de la navette. Et là, après, des astronautes ouvrent une sorte d'armoire qui est à l'arrière et travaillent dedans pour changer les instruments, par exemple pour mettre de nouveaux instruments ou pour faire des réparations. Donc oui, hein, tu as raison en partie, il y a des astronautes qui sont allés dans Hubble, mais pour le réparer. Et pas pour le diriger.
Et notamment un Français.
Oui, le Français Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Il y a eu un autre Européen, c'était le Suisse Claude Nicollier.
Est-ce qu'il est fait pour tout le monde ou bien il y en a un pour chaque pays ?
Alors non, il n'y a pas un Hubble pour chaque pays. Hubble est déjà une coopération entre la NASA, l'Agence spatiale américaine, et l'Agence spatiale européenne. On a un petit peu participé. C'est assez intéressant pour nous parce que ça nous donne droit en tant qu'Européens à 15% du temps d'observation du télescope. Étant donné que c'est un des instruments astronomiques les plus puissants et les plus précis, je crois qu'on a fait là une excellente affaire.
Question de Sadio.
Pourquoi on ne le voit pas dans le ciel ?
Alors en fait, on peut le voir à certaines périodes de l'année parce qu'il va être éclairé par le soleil en passant au-dessus de nos têtes la nuit. Mais il faut se mettre loin des villes, loin de toute pollution lumineuse et il va ressembler à une toute petite étoile faible qui va traverser la voûte céleste en quelques minutes. C'est pas facile à voir, donc en effet, on peut quasiment pas le voir.
Alors on le disait Olivier, Hubble fête ses 25 ans. Est-ce qu'il est toujours prévu de mettre fin à sa carrière en 2020, dans 5 ans ? Et qu'est-ce qu'il va devenir après ?
Alors en fait, 2020, on est J'espère qu'il va fonctionner jusqu'en 2020. Mais tant que Hubble fonctionnera, je pense qu'on va en profiter. Ce qui va se passer, c'est que Hubble, ayant un miroir de 2,40 m, il va falloir contrôler sa rentrée dans l'atmosphère à la fin de sa vie. Parce que soyons très clairs, il y a des morceaux de Hubble qui peuvent atteindre le sol. Donc pour éviter tout risque d'impact à des endroits où ce ne serait pas sympathique, par exemple des zones habitées, on a placé en 2009, lors de la dernière mission de navette, une sorte d'attache et on pense envoyer un robot spatial qui va s'accrocher à Hubble et contrôler sa descente. En gros, on va le faire rentrer au-dessus de l'océan Pacifique. Donc, s'il y a des morceaux qui restent, ils vont tomber dans une zone inhabitée de l'océan Pacifique.
Olivier Sanguy, médiateur scientifique de la Cité de l'Espace à Toulouse. Et tout l'été, vous pouvez suivre l'actualité spatiale sur le site enjoyspace.com.